RFI, 7h à Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Julien Coquelrouet, bonjour à toutes et à tous.
À la une, la riposte iranienne, Téhéran tire des dizaines de missiles en représailles à l'attaque israélienne.
Les missiles qui ont touché Jérusalem, Tel Aviv et le centre du pays, les secours israéliens recensent des dizaines de blessés et font état de moins de morts, tandis que l'État hébreu continue de bombarder le territoire iranien. Après l'attaque massive de ce vendredi, Israël a frappé cette nuit Ispahan et l'aéroport de Téhéran. Nous serons en direct de la capitale iranienne dès le début de cette édition. Un conflit régional aux retombées mondiales. Les chancelleries du monde entier appellent à la retenue et à la désescalade. Le président français Emmanuel Macron pointe la responsabilité de l'Iran et défend le droit d'Israël à se protéger. Dans ce journal également, la Chine qui supprime ses droits de douane avec l'ensemble des pays d'Afrique, avec un impact marginal pour les économies du continent. L'espace Schengen qui fête ses 40 ans, un espace de libre-échange fragile mais attractif. Et puis enfin, nous finirons au cinéma avec Les mots qu'elles eurent un jour, documentaire qui redonne voix à des militantes algériennes des années 60.
Les échanges de tirs entre Israël et l'Iran ont duré toute la nuit.
La riposte iranienne qui se poursuit, une nouvelle série d'attaques de représailles, indique la télévision d'État iranienne. Des dizaines de missiles ont été lancés depuis le territoire iranien. Des frappes qui ont notamment touché Jérusalem et Tel Aviv, mais aussi la plaine côtière et le centre du pays. Au moins 2 personnes ont été tuées cette nuit, selon les secours israéliens. Il y a aussi des dizaines de blessés. Hier, les bombardements de l'État hébreu qui ont fait au moins 78 morts en Iran, la base militaire de Tabriz, le site nucléaire de Natanz et Téhéran ont été particulièrement touchés. La capitale encore frappée cette nuit, notamment l'aéroport Téhéran. On le retrouve en direct, notre correspondant Siavosh Ghazi. Bonjour Siavosh.
Bonjour.
Siavosh, une épaisse fumée s'échappe ce matin de l'aéroport Mehrabad de Téhéran.
Absolument. L'aéroport national de Mehrabad, qui est dans le sud de Téhéran, abrite aussi un site de l'aviation iranienne, militaire iranienne. Donc, c'est ce qui aurait été frappé par l'aviation israélienne. Il y a eu donc jusqu'à 4h du matin hors local des frappes dont on a pu entendre les détonations dans différents quartiers de la capitale, dans le centre de Téhéran. Les batteries anti-aériennes et les systèmes de défense anti-aériens sont entrés en action. C'est un quartier où il y a la présidence de la République, mais aussi la résidence du guide suprême iranien et d'autres lieux du pouvoir. Il y a eu aussi des frappes dans la ville de Karaj, qui est située à 50 km à l'ouest de Téhéran. Et puis, il y a eu donc les différentes annonces de la part des autorités iraniennes sur l'envoi de centaines de missiles en 5 salves différentes donc contre Israël, et les médias iraniens ont diffusé donc des vidéos de ces missiles qui ont atteint par exemple la ville de Tel Aviv ou Jérusalem. Selon Téhéran, Haïfa a également été visée, et puis également 3 bases de l'aviation israélienne ont été également visées selon les autorités militaires iraniennes. On a pu voir aussi par exemple des gens descendent dans la rue pour crier leur joie, mais il y a eu aussi d'autres gens qui critiquaient donc c'est le lancement de ces missiles dans la crainte qu'il y ait un embrasement et donc qu'on s'installe dans une guerre qui va durer plusieurs jours ou plusieurs semaines et donc toucher la vie de tous les jours des Iraniens.
Merci beaucoup, Siavosh Ghazi en direct de Téhéran sur RFI.
Et face à cet embrasement, le patron de l'ONU pousse un cri d'alarme.
Assez de l'escalade, il est temps que ça cesse, alerte Antonio Guterres, le chef des Nations Unies. De nombreux pays comme l'Irak ou la Jordanie ont fermé leur espace aérien. Les pays du Moyen-Orient qui craignent une déstabilisation régionale. Et en France, le président Emmanuel Macron a lui défendu le droit d'Israël à se protéger, déclarant que nous ne pouvons pas vivre dans un monde où l'Iran posséderait la bombe atomique, ce qui constituerait selon lui une menace existentielle pour le monde entier, Pierre-Olivier.
Le ton grave, Emmanuel Macron parle d'une nouvelle étape dans la guerre qui se joue dans la région. Il pointe du doigt l'Iran. Il y a 3 jours, Téhéran a en effet annoncé accélérer son programme d'enrichissement d'uranium.
Le risque de cette marche vers l'arme nucléaire par l'Iran menace la région, l'Europe et plus généralement la stabilité collective.
En conséquence, Emmanuel Macron affirme son soutien à l'État hébreu, même s'il indique que la France n'a pas participé aux frappes de l'armée israélienne sur l'Iran.
Nous soutenons la sécurité d'Israël et donc si Israël devait être attaqué dans le cadre d'une représaille par l'Iran, la France, compte tenu de ses emprises et si elle était en situation de le faire, participerait aux opérations de protection et de défense d'Israël.
Outre de potentielles conséquences économiques, notamment sur le pétrole, le chef de l'État annonce avoir pris des mesures pour assurer la sécurité des Français, notamment au Proche et Moyen-Orient.
Pour garantir la sécurité de nos ressortissants, de nos troupes et de nos ambassades, je demande à nos compatriotes de ne pas se rendre sur place, quel que soit le prétexte.
Autre conséquence de cette escalade entre Israël et l'Iran, la conférence prévue à l'ONU la semaine prochaine à New York pour la création d'un État palestinien a été reportée sine die.
Sommet que la France devait coprésider la semaine prochaine à New York avec l'Arabie Saoudite. Plusieurs dirigeants arabes et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas sont dans l'incapacité de voyager après la fermeture de l'espace aérien. New York, où l'ambassadeur iranien aux Nations Unies a accusé hier soir les États-Unis d'avoir soutenu les frappes israéliennes, estimant que la complicité de Washington ne faisait aucun doute. Les frappes israéliennes et la riposte iranienne, on y revient juste après cette édition, dans notre édition spéciale. Nos dernières infos sont aussi à retrouver sur notre fil en direct sur RFI.fr. Aux États-Unis, Donald Trump envoie les marines à Los Angeles, 700 marines déployées dans la deuxième ville du pays qui s'additionne aux quelques 4000 réservistes de la garde nationale déjà mobilisés, alors que ce samedi, les opposants à la politique du président républicain se réunissent dans tout le pays pour protester contre le virage autoritaire du pouvoir en place. À la une, également ce matin, la suppression des droits de douane chinois pour tous les pays africains. Jusqu'ici, 33 pays du continent étaient exemptés. Désormais, ils sont 53, objectifs de la Chine, développer les échanges commerciaux. Mais est-ce que cela peut profiter aux pays africains qui exportent majoritairement des matières premières vers la Chine? Cette exemption de droits de douane pourrait n'avoir qu'un impact très marginal sur les économies africaines. Alexis Bédu.
Les modalités de ces suppressions de droits de douane pour les pays africains n'ont pas été précisées, mais Benoît Chervalier, directeur de la chaire Business et Industrie en Afrique à l'ESSEC, prévient « Si les exemptions ne concernent que les matières brutes, ça n'aura que peu d'effet et ça n'incitera pas les pays africains à accélérer sur la transformation locale. »
C'est une chose d'exonérer par exemple de la matière brute, c'en est une autre de savoir si le même type d'exemption couvrirait des matières transformées en Afrique qui seraient exportées en Chine. Et là, pour l'instant, on n'est pas du tout dans ce cas de figure.
Sur les minerais et le pétrole, la Chine dispose de nombreux fournisseurs ailleurs qu'en Afrique. Elle devrait garder la main sur les quantités importées depuis le continent. Sur les produits agricoles, c'est encore la Chine qui tient les manettes, explique Thierry Perrault, chercheur et spécialiste de la présence chinoise en Afrique.
Les échanges agricoles ne sont pas du fait d'une activité promue par les pays africains, mais d'une activité organisée par exemple par la province du Hunan. Donc en fait, in fine, ça risque davantage de profiter à la province du Hunan qui utilise ses échanges commerciaux avec l'Afrique pour renflouer ses finances locales que bénéficier aux producteurs africains.
Les échanges des pays africains avec Pékin ne représentent que 3% du commerce chinois.
Alexis Bédu du service économie de RFI. RFI 7h08 à Nice, où s'est achevée la conférence de l'ONU sur l'océan. Une semaine de sommet, 12 000 personnes venues de 153 pays étaient réunies avec un grand absent. Les États-Unis, qui disposent pourtant du plus grand espace maritime au monde. Malgré cette absence, la troisième conférence du genre a permis certaines avancées. Plusieurs engagements ont été adoptés hier soir, salués par les cornes de brume des navires du port de Nice. Jeanne Richard.
La séance est levée.
La principale annonce concerne le traité sur la haute mer. Il ne manque que quelques ratifications pour qu'il entre en vigueur. Et ce sera le cas d'ici septembre, promet Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur français de l'océan.
Le fait que nous allons pouvoir donc ratifier ce traité de la haute mer, c'est-à-dire en fait avoir une gouvernance de 50% de la surface du globe, qui pour l'instant était anarchique, c'était un vrai Far West, et que ce traité, c'est des règles pour éviter la prédation industrielle, éviter la pêche illégale, illicite, la surpêche, et pour évidemment créer aussi un système d'air marine efficace et protecteur.
Une poignée de pays se sont aussi engagés contre l'extraction minière dans les fonds marins, de quoi bloquer un code minier jugé dangereux pour l'environnement, d'autres contre la pollution plastique, ou encore pour créer de nouvelles aires marines protégées. Mais Julien Rochette, de l'Institut du développement durable et des relations internationales, prévient qu'il faudra aller au-delà des belles promesses.
Il faut rendre les États redevables de tout ce qu'ils viennent d'annoncer à l'UNOC. Et ça, la société civile, les ONG, les scientifiques vont pouvoir revenir avec des billes en disant « voilà ce que vous nous avez dit à Nice, maintenant faisons-le ».
Rendez-vous est donné dans 3 ans pour le prochain sommet des Nations Unies sur l'océan qui sera co-organisé par la Corée du Sud et le Chili.
Jeanne Richard qui nous a fait vivre cette conférence toute la semaine sur RFI. L'espace Schengen a 40 ans, anniversaire fêté aujourd'hui au Luxembourg. À l'origine, il n'était que 5. En 1985, les pays du Benelux, la France et l'Allemagne. Ils sont aujourd'hui 29 États membres de cet espace de libre circulation. Mais aujourd'hui, l'espace Schengen est fragilisé par un retour au contrôle aux frontières. Au nom de la lutte contre l'immigration illégale, Schengen fragile, mais toujours attractif, estime Jean-Dominique Giuliani. Il est le président de la Fondation Robert Schuman.
Tout État qui se rapproche de l'Europe ou qui veut y adhérer rêve d'avoir accès à l'espace Schengen. Regardez la Roumanie qui vient de l'intégrer après une longue période de probation. Mais en réalité, il s'agit d'ajouter la dimension humaine à ce qu'est l'Union européenne, c'est-à-dire un espace de libre circulation des marchandises. Il serait quand même bizarre que les marchandises, les capitaux, puissent librement circuler et pas les personnes. Et de facto, malgré les dérogations, malgré les difficultés ou les événements terroristes, etc., qui justifient qu'on contrôle un peu les frontières internes, en réalité, elles sont largement ouvertes. Et ça va avec, c'est le pendant, un espace qui essaie de faire compter ensemble la force de ces nations qui le composent.
Des propos recueillis par Daniel Vallaud. Allez, on termine au cinéma. Des militantes algériennes retrouvent leur voix 60 ans après. Le réalisateur Raphaël Pilosio remet du son sur des images datant de 1962, ce qui donne un film documentaire intitulé « Les mots qu'elles eurent un jour » qui revient sur le parcours de militantes du FLN enfermées en France et libérées après les accords d'Évian. Un film pour éviter l'oubli et pour redonner voix à celles qui n'en avaient pas, ou plutôt qui n'en avaient plus, Elisabeth Le Quéré.
Quand au début des années 2000, Yann avait récupéré par hasard les images de 1962, la bande-son avait disparu.
À l'écran, elles sont 20 militantes, dignes et soudées, qui racontent leur vie pendant la guerre de libération et leurs espoirs pour l'Algérie indépendante. Mais la bande-son du film a disparu. 60 ans après les accords d'Évian, Raphaël Pilosio, héritant de ses bobines muettes, a voulu partir à la recherche de ses femmes.
Qu'est-ce qu'elles étaient belles et pleines de vie.
Ce moment de 62, c'est le moment de la sortie de prison, c'est le moment de la joie, de la victoire, de la lutte victorieuse. Et peut-être aussi, c'est le dernier moment d'un être ensemble, d'être dans une collectivité, dans un moment d'espoir fort.
Mais les hommes ont tout fait pour faire barrage aux jeunes femmes à ce moment-là.
Il y a celles qui racontent comment, une fois la révolution passée, les femmes ont disparu de l'histoire officielle. Celles qui regardent les images et sourient sans commenter, tandis que d'autres refusent de parler. Le film assume cette fragilité, mais l'enjeu est là. Montrer ce qui reste, malgré tout, faire œuvre de résistance au service d'une mémoire féminine et politique que le silence n'a pas réussi à effacer.
Les mots qu'elles eurent un jour sortis cette semaine en France, RFI 7h13 à Paris. Je laisse la place à Julien Coquelroem.
Merci Martin Guez, à tout à l'heure. Samedi 14 juin 2025, RFI Matin, en édition spéciale aujourd'hui, au deuxième jour de l'escalade entre Israël et l'Iran. Après les frappes massives de l'armée israélienne d'une ampleur inédite en Iran dans la nuit de jeudi à vendredi, la République islamique a lancé hier soir sa riposte promise sur l'État hébreu, des salves de missiles tout au long de la nuit, des dizaines de blessés, au moins deux morts, et l'avertissement du guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei.
Le point que je souhaite maintenant partager avec notre chère nation est le suivant. Le régime sioniste a commis une grave erreur, une énorme erreur de calcul, une faute flagrante. Et par la grâce de Dieu, ses conséquences le mèneront à la ruine. Israël ne doit pas s'imaginer qu'il a frappé et que c'est fini. Non, ils ont commencé, ils ont lancé une guerre. Nous ne leur permettrons pas de sortir indemne du crime majeur qu'ils ont commis. Nous devons agir avec force. Et si Dieu le veut, nous agirons avec force. Il n'y aura pas de compromis.
À quoi faut-il s'attendre désormais alors qu'Israël promet de continuer ses frappes sur le territoire iranien? Que change l'emploi du terme de guerre par Téhéran? Quelles sont ses capacités à aller plus loin dans sa riposte? Quel danger d'une bascule régionale? On en parle tout au long de la matinée et dès maintenant jusqu'à 5h30, temps universel.
Édition spéciale sur RFI.
Et j'accueille tout de suite notre invité pour cette première édition spéciale de la matinée, Firouzeh Navandi, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite à l'Université libre de Bruxelles, iranienne, spécialiste des pays musulmans non arabes. Avant d'aller plus loin avec vous, on va faire le point sur les développements d'hier soir et de cette nuit. Bonjour Guilhem Delteuil.
Bonjour Julien.
Journaliste au service international de RFI, ancien correspondant à Jérusalem. Les échanges de tirs entre l'Iran et Israël ont duré toute la nuit.
Oui, et puis ils se poursuivent ce matin encore. L'Iran affirme avoir lancé une nouvelle série d'attaques. Dans la nuit, déjà, au moins 3 vagues de dizaines de missiles avaient visé Israël. L'Iran affirme avoir ciblé des dizaines de bases et d'infrastructures militaires. Mais le pays a également touché des zones résidentielles dans l'agglomération de Tel Aviv, par exemple. Un immeuble a été touché hier soir. D'autres zones résidentielles ont également été endommagées ce matin. Les services de secours ont annoncé il y a quelques minutes, la mort de 2 personnes ce matin dans une zone résidentielle le long de la côte israélienne. L'armée israélienne, elle, poursuit ses opérations également en Iran. Cette nuit, elle a notamment bombardé un site d'enrichissement d'uranium qui se situe à Ispahan. De la fumée a été vue également dans le ciel de Téhéran, montant depuis le quartier où se trouve l'un des aéroports de la capitale iranienne, plutôt spécialisé sur les vols internes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les 2 parties à la désescalade, à cesser les hostilités, mais pour l'heure, le discours, Julien, reste très très martial de part et d'autre. Le guide suprême iranien a menacé Israël d'un sort douloureux. Le président iranien a, lui, pour sa part, assuré que l'Iran ferait regretter à Israël son attaque. Quant au ministre israélien des Affaires étrangères, il a, lui, estimé que l'Iran a franchi une ligne rouge en attaquant des zones résidentielles. L'heure n'est pour l'instant pas à l'apaisement.
Guilhem Delteuil, merci, vous restez avec nous pour continuer d'évoquer cette nuit de frappe croisée. Que dire de la riposte que l'Iran a entamée hier, Firouzeh Nahavandi? Que peut-on dire, ces frappes de missiles, leur ampleur, les dégâts qu'elles ont causés en Israël? Est-on dans quelque chose qu'on pouvait prévoir ou un cap a-t-il été franchi?
Écoutez, à partir du moment où l'Iran avait été attaqué, la République islamique et son régime ne pouvaient pas ne pas répondre. Donc c'était quand même une réponse que tout un chacun attendait. Le régime déploie aujourd'hui ce qu'il peut pour garder la face et en même temps pour répondre à l'attaque israélienne. Ce qui m'a frappé dans le petit discours que vous avez mis sur antenne, c'était la partie où l'ayatollah Khamenei dit « si Dieu le veut ». Et ceci me frappe dans la mesure où donc Dieu éventuellement ne voudra pas. Ouais. Mais cela montre également que le régime doit être aussi conscient que par rapport à la force militaire israélienne, elle n'a pas nécessairement la même force.
Justement, donc, ça nous pose la question de la suite de cette riposte. L'Iran a-t-il la capacité d'aller plus loin que ce type de frappe qu'on voit depuis hier soir?
Écoutez, l'Iran a la capacité d'aller plus loin dans la mesure où, parallèlement à la riposte militaire, il y a le moyen, et c'est ce que fait ce régime continuellement, d'activer différents outils, à savoir pousser ses proxys à intervenir, même si ses proxys ont été quand même relativement affaiblis.
Oui, ce qu'il en reste, on peut dire que les outils du Yémen sont les seuls encore réellement opérationnels aujourd'hui, ou du moins en capacité
Mais on a toujours une capacité de nuisance. Elle peut ne pas être très importante, mais il y a une capacité de nuisance. Il y a le terrorisme, il y a l'utilisation des otages, puisque c'est aussi un élément que la République islamique utilise beaucoup. Il y a le blocage du détroit d'Hormoz et, j'imagine, d'autres moyens. En tout cas, le régime va déployer autant qu'il peut quelque chose pour répondre. Ouais. Sauf que ce régime a aussi régulièrement, et ceci est vrai depuis l'Ayatollah Khomeini, utilisé une tactique qui est intitulée en Iran la maslahat, c'est-à-dire la raison d'État. Et cette raison d'État peut être déployée pour changer de stratégie. Mmh. Donc, il faut attendre voir comment les choses avancent.
On voit...
Mais en tout cas, pour la région, c'est quand même une grande crainte.
On voit en tout cas que l'Iran doit à la fois montrer sa force sans risquer de s'exposer à des frappes encore plus dévastatrices, mais impossible de parler de la réponse iranienne aux frappes israéliennes de la nuit dernière, sans parler de l'affaiblissement de la République islamique. D'abord, on peut dire qu'Israël a choisi son moment et a profité d'une fenêtre qui s'est ouverte depuis le 7 octobre 2023. On peut dire que l'affaiblissement de l'Iran a été constant depuis un an et demi.
Oui, on peut dire que de tous les points de vue, l'affaiblissement est constant. D'abord parce que les proxys de l'Iran ont été touchés et donc il y a un affaiblissement de ce côté-là. D'autre part, les têtes aujourd'hui militaires et scientifiques ont été touchés et cela est aussi un affaiblissement, mais surtout la République islamique depuis plus de 2 ans subit une contestation interne qui a totalement délégitimé ce régime. Et je pense que ça aussi, c'est un élément qu'il faudra suivre pour voir comment la population iranienne va réagir.
Et on va y revenir. J'aimerais d'abord reparler des frappes de la nuit de jeudi à vendredi par Israël sur l'Iran et de ce qu'elles ont sans doute accentué dans l'affaiblissement du pays. Guilhem Deltaï, que sait-on de ce qui a été touché en Iran depuis la nuit de jeudi à vendredi?
Et alors, nous sommes dans une communication de guerre, Julien. Il faut prendre donc les déclarations de chaque partie avec prudence. On sait toutefois que pour Israël, l'objectif affiché, il est double. Toucher les infrastructures nucléaires iraniennes, mais également porter un coup à l'arsenal de missiles balistiques iraniens. Ces deux axes sont essentiels pour Israël. Ça fait partie des choses que le Premier ministre Benjamin Netanyahou répète depuis plusieurs années. Les cibles israéliennes ont donc été multiples. Il y a donc les infrastructures nucléaires du pays. De ce point de vue-là, 3 sites semblent avoir été particulièrement visés. Le centre pilote d'enrichissement de Natanz. Là, l'Agence internationale de l'énergie atomique indique que la partie en surface a été détruite, mais les infrastructures les plus essentielles se trouvent, elles, souterraines et aucune estimation n'a été faite des dégâts qui leur auraient été infligés. À Ispahan, l'armée israélienne revendique le démantèlement du site d'enrichissement d'uranium, mais le site, s'il a bien été touché, les dégâts qui lui ont été infligés n'ont pas été évalués de manière indépendante. Enfin, le site de Fordo, qui lui se trouve près de Téhéran, a également été bombardé. Là, seul l'Iran a donné son évaluation, estimant que les dégâts sont mineurs.
Firouzena Avandi, ces frappes peuvent avoir affaibli, ralenti le programme nucléaire de Téhéran.
En tout cas, le but recherché par Israël était de mettre fin au programme nucléaire, puisqu'il a toujours été contre ce programme. Mmh. Mais si ce n'était pas possible de mettre fin, en tout cas, de ralentir le programme nucléaire iranien. Donc, le but, d'une certaine manière, est atteint à ce stade.
Et l'autre volonté israélienne affiché, ou du moins très clair, c'est de déstabiliser le régime iranien et d'en appeler aux Iraniens. On l'a vu hier soir dans les mots de Benjamin Netanyahou à la télévision.
Ce soir, je souhaite m'adresser à vous, le fier peuple d'Iran. Nous sommes au cœur de l'une des plus grandes opérations militaires de l'histoire, l'opération Rising Lion. Le régime islamique qui vous opprime depuis près de 50 ans menace de détruire mon pays, l'État d'Israël. L'objectif de l'opération militaire israélienne est d'éliminer cette menace, à la fois la menace nucléaire et la menace des missiles balistiques qui pèsent sur Israël. En atteignant nos objectifs, nous vous ouvrons également la voie pour que vous puissiez atteindre votre objectif, à savoir la liberté. Le moment est venu pour vous de vous unir autour de votre drapeau et de votre héritage historique en défendant votre liberté face à un régime malfaisant et oppressif. Peuple courageux d'Iran, votre lumière vaincra les ténèbres. Je suis avec vous. Le peuple d'Israël est avec vous.
Voilà l'appel du Premier ministre israélien. On va parler des effets que peut avoir cette offensive israélienne sur le régime et l'opinion dans le pays. Mais je voudrais d'abord me retourner vers vous, Guilhem Deltaï. Qu'est-ce que ça nous dit, ce message aux Iraniens, de la stratégie de communication de Benjamin Netanyahou aujourd'hui ?
Alors ça aussi, c'est un classique de la communication de Benjamin Netanyahou quand il s'agit de l'Iran. Il se défend comme un défenseur du peuple iranien contre un régime oppressif. Ça, c'est un message qu'il a martelé à de nombreuses reprises par des allocutions en anglais, comme on l'entendait là, par des messages en persan aussi sur les réseaux sociaux. C'est vraiment donc la stratégie fondamentale de Benjamin Netanyahou. Là, il essaie certainement aussi de recréer un élan de soutien aussi derrière Israël à un moment où sa guerre à Gaza est de plus en plus critiquée. On rappelle que Benjamin Netanyahou est lui-même poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt et qu'il est donc légalement en fuite. Là, il se présente non plus comme un criminel, mais comme le héros d'un mouvement de liberté.
Firouzeh Nahavandi, alors que selon le représentant de l'Iran à l'ONU, les frappes israéliennes ont fait au moins 78 morts et 320 blessés, dont une large majorité de civils, dit-il. Quels échos recevez-vous de la réaction de la population iranienne depuis hier ?
Écoutez, la population iranienne est assez partagée. C'est aussi pour cela que Netanyahou fait régulièrement des appels à la population iranienne, dans la mesure où il y a un risque quand même qu'une réaction nationaliste ressoude la population derrière le régime, en tout cas une partie de cette population, mais dans le même temps, beaucoup se réjouissent des interventions israéliennes parce que cela pourrait aboutir à la chute du régime. Donc on est dans une telle situation en Iran qu'il y en a maintenant qui se réjouissent et qui espèrent que d'une manière ou de l'autre, ce régime puisse tomber.
Peut-on dire, ou du moins supposer, que si ce conflit se prolonge, si les dégâts en Iran se multiplient, alors qu'on voit déjà des frappes quand même très nombreuses et très étendues sur le territoire iranien, peut-on supposer que le régime pourrait être en danger ?
En tout cas, le régime peut être en danger, mais la question que l'on peut se poser, c'est même si ce régime est en danger, voire ce régime tombe, que peut-il se passer après ? C'est toujours la question. Également, ce n'est pas pour soutenir ce régime que j'évoque cela, mais en tout cas, il y a quand même un point d'interrogation. Mais ce régime, en tout cas, est totalement délégitimé. Et maintenant, en tout cas, regarder avec beaucoup, beaucoup d'appréhension à l'international aussi.
On pourrait voir un durcissement en termes de politique intérieure, en termes de contrôle sur le pays, si le pouvoir se sent menacé ?
Je crois que oui. Je crois que ce pouvoir, dès qu'il se sent menacé, durcit sa répression interne et donc, à l'heure actuelle, va essayer de voir où sont les traîtres qui ont aidé Israël dans ses manœuvres et en tout cas pour contrôler la population va aller plutôt vers la répression qu'autre chose.
Et on peut aussi imaginer qu'il va forcément durcir son discours sur le nucléaire. Et puis la question omniprésente depuis hier, c'est quand même celle du danger d'un embrasement régional. Si le conflit se prolonge et s'étend, on voit notamment l'inquiétude des pays qui abritent des bases américaines dans la région, l'Irak, la Jordanie, les monarchies du Golfe. Peut-on imaginer l'Iran les frapper comme il a menacé de le faire ? Est-ce que la bascule régionale qu'on craint depuis un an et demi et les attaques du 7 octobre 2023 pourrait partir de là ?
Écoutez, devant un régime qui se sent menacé, tout à fait, c'est une hypothèse qu'il faut envisager et il est probable qu'il y aura aussi des manœuvres sur les bases militaires américaines. En tout cas, quelle que soit la manœuvre qui se passe dans la région, le régime iranien accuse toujours les États-Unis. Donc, il serait quelque part logique qu'il y ait une attaque sur des bases américaines, ce qui va encore doubler le risque d'embrasement dans la région.
Mais l'affaiblissement dont on a parlé de l'Iran, de ses proxys, ne rend-il pas trop grand le coût que représenteraient des frappes contre des bases américaines et la riposte inévitable qui serait engagée par Donald Trump pour l'Iran ?
Bien évidemment, le coût serait très grand, mais n'oublions pas que ce régime a fait 8 ans de guerre avec l'Irak, a perdu plus d'1 million d'Iraniens et qu'il est prêt à tout pour assurer son futur, se préserver. Donc, même si le coût est immense, cela n'arrêtera pas le régime.
Merci Firouzeh Nahavandi, professeure émérite à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste iranienne des pays musulmans non arabes, autrice aussi de Femmes iraniennes, évolution ou révolution, comment survivre sous un régime islamique. C'est un ouvrage paru aux éditions Codes, la pensée et les hommes. Merci Guilhem Deltaï. On vous retrouve tout à l'heure. Notre matinée spéciale se poursuit et vous suivez la situation entre l'Iran et Israël sur notre site RFI.fr. Le live est toujours en cours. Bientôt 5h30 en temps universel.
RFI à Paris, 89 FM.